Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, ou comme Sestula qui conquit la toison, et puis est retourné plein d'usage et raison, vivre entre ses parents le reste de son âge. Heureux nous qui, à travers ces vers du poète humaniste Joachim du Bellay, écoutons aujourd'hui un marin qui retourne dans une de ses maisons, à l'École normale supérieure de Paris, après ses voyages sur les mers méditerranéennes qui lui tiennent tant à cœur. Dans cet épisode du podcast Humanité dans le texte, nous accueillons Pascal Arnaud, normalien de la promotion 1978, agrégé de lettres classiques, membre de l'École française de Rome, élève de Pierre Grimal à la Sorbonne et docteur d'État, avec une thèse unique à ce jour, aussi bien par son sujet que par sa taille, plus de 1400 pages, une thèse sur la cartographie à Rome. Pascal Arnaud a une longue carrière didactique et administrative derrière lui, ayant été maître de conférences en histoire ancienne à Bordeaux, puis professeur à Nice et à Lyon 2. Actuellement membre senior honoraire de l'Institut universitaire de France et professeur émérite à l'Université Lyon 2, Pascal Arnaud continue ses voyages avec son bateau, dont il s'occupe seul, et ses recherches sur l'histoire et la navigation romaine. Toujours généreux avec ses étudiants et ses collègues, il vient de publier dans notre bibliothèque des Humanités dans le texte un magnifique dossier consacré à une figure étonnante et pourtant oubliée de l'histoire ancienne, Epiphania, une femme marin, une grecque originaire d'Athènes et morte à Tomis, près des bouches du Danube, sur le littoral de la mer Noire. Humanité dans le texte, un podcast de l'École normale supérieure et de l'Université Paris Sciences et Lettres. Bonjour Pascal Arnaud et merci d'être avec nous pour nous amener sur les rivages méditerranéens et parler du latin, du grec, de textes littéraires et épigraphiques, d'histoire et d'archéologie.
Bonjour, écoutez, je tenais à vous dire mon plaisir immense d'être présent dans cette maison où j'ai commencé à m'épanouir et à grandir, où j'ai appris énormément de choses et où j'ai eu le début de l'opportunité de commencer à donner forme à mon goût pour le latin et le grec qui devait m'amener à quitter les lettres classiques pour appliquer ces savoirs à d'autres champs plus historiques qui convenaient mieux à mon tempérament et à une diversité de sources qui justifie que je sois présent aujourd'hui.
Dans les humanités, dans le texte, nous entrons dans la matière de l'histoire et de l'archéologie par des textes et par des inscriptions que l'on essaie de lire dans les langues d'origine. Vous nous avez proposé une inscription grecque trouvée dans une ville gréco-romaine du bout du monde, très loin d'ici, sur les rivages de la mer Noire, une mer mal aimée des navigateurs en raison de son hostilité. Vous nous révélez par cette inscription le destin d'une femme dans une famille de marins grecs au début du 3e siècle après Jésus-Christ.
Cet objet est assez commun dans le contexte funéraire. C'est ce que nous appellerions aujourd'hui une pierre tombale, mais c'est un peu plus que cela. Cet objet, c'est un autel qui permet de pratiquer des sacrifices, en général dans le cadre funéraire, des offrandes de vin et d'aliments. Très souvent, il y a un canal qui rejoint la partie où on fait les libations et les restes du défunt. Et ces gestes permettent, lorsqu'ils sont pratiqués conformément au rite et au moment voulu par le rite, de redonner un semblant de vie aux âmes des défunts. L'autre élément réputé pour les anciens, donner un peu de vie, redonner un semblant de vie à ces âmes défuntes, était de commémorer leurs souvenirs. Et c'est ce que raconte le texte qui a été gravé et qui s'adresse précisément à un passant qui, en lisant cette histoire, va redonner, comme nous allons essayer de le faire, un peu de vie à une personne ici, assez surprenante et un peu même unique.
Soyons donc les passants devant cette stèle à Epiphania.
Kaere parodeita kaisu.
Toi qui passes devant ce monument, salut. Toi aussi, le jour viendra où ce sera ton tour.
Estekes epnoia legon. Aratis epotenede. Acue de xine patran. Kai unomatumon.
En lisant ces mots, tu as à l'esprit Qui est-elle et d'où est-elle? Écoute donc, étranger, mon nom et ma patrie.
Enman moi kton topen las, ak metros athenaias efuen, patroste amioneos, epiphania de moi unoma.
Ma terre était la Grèce. Je suis né d'une mère d'Athènes et d'un père d'Hermione. Mon nom était Epiphania.
Polen men eseidon ego gaian passante eplosa thalassan. Engar emoi genetes kai gametes nocleroi. Usetemen palamesia gnais upotumbo thanontas.
J'ai vu de nombreuses terres et navigué sur la mer entière, car mon père et mon mari étaient Nauclères. À leur mort, de mes pures mains, je les ai déposés dans la tombe.
Olbios de moi bios topin en, en muses efuen, sophieste metesquam. Filaste leipomenes, os gune gnexi, pola paresquam. Eis eusebien aphorosa.
J'ai vécu dans l'aisance, je suis né parmi les muses, et j'ai eu ma part de Sophia. Et aux amis laissés dans le besoin, j'ai beaucoup donné, en femme envers d'autres femmes. Et j'ai eu les yeux fixés sur une vie de piété.
Caide, kleine, camaton, Pauline, enencamene, egnosaphos. Ou cat sebian, eisin, aitneton, tikai.
Et pourtant, sur son lit, souffrant mille tourments, elle l'a appris clairement. Le destin des défunts ne suit pas leur piété.
Hermogenes, Anculanos, Kai Tomites, Philes Oinopon, Te Eotus Unbio, Euchcariston, Neascarin, Anetaka.
Hermogenes, citoyen d'Ancyre et de Tomis, où il est inscrit dans la tribu d'Oinopos, a érigé ce monument en mémoire de celle dont il a partagé la vie, en signe de reconnaissance. Alors, passé ces quelques instants de respiration après cette magnifique lecture, Pascal Arnaud, pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez choisi de partager avec nous ce texte-là?
Eh bien, je suis tombé sur ce texte par hasard, il y a 4 ans, alors que j'essayais de faire la liste des Nauclères, dont on reparlera dans un instant, de Méditerranée, l'époque impériale. Et je suis allé de surprise en lisant ce texte. D'abord parce que cette femme prend la parole pour décrire une vie, la sienne, dans des termes qui ne sont pas ceux que l'on trouve conventionnellement lors de l'éloge funéraire d'une femme. Parce que, deuxièmement, elle nous mettait en présence de choses que nous imaginions difficilement. Des femmes présentes, sinon comme commandant de bord, du moins dans l'entourage immédiat de ce commandant, à bord de navires et présentant leur expérience nautique comme un élément méritant d'être versé au crédit de leur vie. Pour ces deux raisons, à la fois l'histoire de la navigation et le statut assez exceptionnel d'une femme qui n'entre pas entièrement dans les critères genrés de son temps, cette inscription est devenue assez fascinante pour moi, ainsi que la personnalité de la locutrice.
On comprend bien. Et alors, dans cette traduction que vous nous proposez, vous avez choisi de maintenir 2 termes, Sophia et Nauclères, dans leur langue d'origine. Pourquoi ?
Eh bien, l'un des grands mystères de la traduction est qu'il nous contraint parfois à trahir le sens si l'on veut donner un exemple, un équivalent moderne. Il arrive que nous n'ayons pas de notion correspondante, soit que notre pensée ne l'ait pas développée, soit que le mode d'organisation d'un certain nombre de métiers ne nous donne pas d'équivalent potentiel. Nauclères est un mot extrêmement complexe parce qu'il est hérité du passé chez les Grecs lui-même. Il a donné le mot latin naviculaire. Les Romains n'ont pas jugé bon de transformer ce mot grec. Le nocleur est à l'origine une personne qui est l'un des deux métiers de la mer. On va dire que au début de la période classique, le modèle traditionnel de l'économie maritime est partagé entre deux métiers. Celui qui gère le bateau et qu'on appelle le nocleur, qui en est alors normalement le propriétaire et le commandant, et le marchand, qui loue les services du transporteur pour transporter sa marchandise. Avec l'évolution du temps, les choses deviennent compliquées, mais les mots restent. Le nocleur est fondamentalement d'abord celui qui tire les revenus de l'exploitation commerciale du navire. Il n'en est pas toujours le propriétaire. Il peut louer le bateau coque nue à un propriétaire et l'exploiter pour son compte. Il en est alors le nocleur. Mais il peut aussi armer un ou plusieurs navires dont il va tirer directement les revenus, mais sans prendre la mer, en désignant un commandant qu'il rémunère pour accomplir cette fonction. Vous comprendrez qu'il est difficile de traduire. Quant à Sophia, on rentre dans le vocabulaire de la philosophie. Une facilité de traduction consiste à traduire Sophia par sagesse. Mais la définition moderne de la sagesse, et je cite ici le Larousse, est un idéal supérieur de vie proposé par une doctrine morale ou philosophique ou le comportement de quelqu'un qui s'y conforme. Ce n'est pas du tout ce que signifie ce mot qui est plutôt connoté du côté de la connaissance. C'est la connaissance organisée ultime, le sommet de la pyramide des connaissances organisées par la raison qui permet d'avoir la compréhension du monde et d'agir en conséquence. Et la Sophia ainsi définit cette sorte de connaissance consciente d'elle-même, maîtresse de l'ordre du monde, et le but ultime de la philosophia, la recherche de cette connaissance, plus que de la sagesse. La sagesse est en option.
Alors, Epiphania, non seulement donc, se réclame de cette Sophia dont vous parlez à l'instant, mais dit avoir navigué sur toutes les mers. Aidez-nous à imaginer sur quel type de bateau elle pouvait naviguer, comment elle vivait à bord.
Nous sommes, par le biais des nocleurs, dans un monde qui est celui des navires de commerce maritime. Dès lors, on exclut les bateaux de guerre et on exclut les bateaux fluviaux qui ont des conceptions spécifiques. Il nous reste donc deux modèles principaux. Le premier, c'est le navire à voile seul, un bateau plutôt rond, qui peut être fort gros. Certains ont pu atteindre et dépasser les 1000 tonnes de port en lourd, c'est-à-dire de chargement à l'intérieur du navire. L'autre, c'est ce qu'on appellera la galère de commerce, c'est-à-dire des bateaux qui sont conçus pour utiliser conjointement ou alternativement deux modes de propulsion. La rame et la voile. Évidemment, ce deuxième modèle coûte beaucoup plus cher que l'autre parce qu'il faut beaucoup de monde à la rame et il a d'autres contraintes, c'est-à-dire qu'il y a peu d'espace pour dormir, pour préparer à manger pour tout ce monde et donc deux modèles de vie à bord. Le gros navire rond est un navire qui va naviguer lorsque les vents sont les mieux établis, donc essentiellement pendant les mois d'été. Toute la moitié orientale de la Méditerranée est soumise à des régimes de vent très peu variants pendant 4 mois de l'année. Le sud-ouest de la Méditerranée également. Sur ces itinéraires, ces bateaux font merveille, au moins dans un sens. Car quand le vent est favorable dans un sens, il est défavorable dans l'autre. Sur ces bateaux, avec des équipages plus réduits, avec des ponts, il y a des espaces où s'abriter, il y a au moins une cabine pour le commandant, et on jouit d'un certain confort. Sur les autres bateaux, plus rapides en vitesse pure, on est plus près de la côte, parce qu'on ne peut pas ramer en permanence. Et c'est la plage qui devient l'univers nocturne du petit monde qui est à bord. On dort sur la plage, sous des tentes, mais on est là en présence d'équipages qui On va prendre deux exemples. Un vaisseau rond de 15 mètres à peu près, un équipage de 6 personnes en moyenne. La même capacité de charge sur une galère de commerce représentera 20 rameurs, plus l'officier de proue, plus le pilote, plus le maître de nage. Au moins 23 personnes. Ce sont deux modèles économiques. On a trouvé des astuces. On apprend par exemple que à la fin du 5e siècle, toute personne qui embarque sur un bateau pour une traversée, quel que soit son statut social à Athènes, prend une rame et rame avec les autres.
Et quid de l'esclavage parmi les rameurs, les galériens ?
L'esclavage fait partie, sans aucun doute, dans ce modèle commercial, d'une partie de l'équipage. La documentation qu'on peut recueillir en Égypte montre que ce sont aussi souvent des hommes libres, et le plus souvent des hommes libres, qui participent à ces tâches, moyennant rémunération. Elles demandent par ailleurs un minimum de technique. J'ai découvert, sur une réplique navigante, que tirer la rame, la pousser, scier, souquer, n'était pas si simple.
Justement, en parlant de technique, aidez-nous à comprendre comment est-ce qu'on peut s'orienter en mer, comment est-ce qu'on fait face dans ce monde qui n'est pas équipé de sonar, de GPS, de tout un tas d'outils modernes pour apprivoiser les mers. Quelles sont les techniques de navigation utilisées ?
Alors, on va remonter encore plus loin dans le temps et rajouter quelques outils qu'ils n'ont pas. Ils n'ont pas la boussole. Ils risquent donc, pardonnez-moi, de perdre le nord. Ils n'ont pas d'astrolabe pour mesurer l'élévation sur l'épaule. Ils le connaissent dès l'époque de Ptolémée, 2e siècle après Jésus-Christ. On n'en a jamais trouvé à bord, sur les épaves. Ils ne connaissent pas, et là nous avons des textes qui nous le confirment, on n'a pas d'outils pour mesurer la distance parcourue. Mais pourtant ils mesurent les distances en mer. Ils ont donc développé des stratégies de contournement. Une est bien connue, c'est la Grande Ourse. Dans l'Antiquité, le fan de la Grande Ourse donne le nord vrai. Calypso apprend à Ulysse comment, seul à bord, sur un des premiers bateaux ronds, en équipage réduit, naviguer le jour et la nuit, car on ne navigue pas la nuit sur les galères. Sur ce bateau-là, il faut faire quelque chose de lui. Regarde, si tu tiens cette étoile à gauche du bateau, tu arriveras chez toi. Les choses sont un peu plus compliquées, mais répartir diverses parties du bateau par rapport à cette étoile permet, la nuit, et seulement la nuit, de s'orienter.
Et le jour alors, quand les étoiles ne sont pas visibles ?
Ces bateaux avancent à force de vent. On sait que lorsque le vent est soutenu dans une région donnée, maintenir un certain angle avec ce vent permet d'arriver, au bout d'une durée déterminée, en vue d'un lieu connu. Et là intervient un deuxième élément, la connaissance que l'on a des côtes auxquelles on doit accéder. Comment avoir ces connaissances ? C'est l'apanage du pilote. Le pilote est l'homme qui sait se diriger la nuit, qui au milieu de nulle part sait où on est et où l'on va. On n'est pas perdu. C'est celui qui sait reconnaître une côte, qui lit des signes qui lui disent « je suis là, ici c'est dangereux, là c'est bon, bientôt on verra ceci et cela ». Et là, il y aura un port. Mais c'est aussi celui qui sait lire les signes de cet univers à trois dimensions. Il y a quelque chose dessous, des profondeurs, une nature du fond. On a des plombs de sonde qui capturent des éléments du fond et permettent non seulement de mesurer la profondeur, mais de dire ce qu'il y a au fond, déjà au 5e siècle avant Jésus-Christ. Tous ces éléments permettent de dire « je suis là ». Mais ce que je vois dans le ciel me dit qu'il vaut mieux éventuellement choisir un autre plan, parce que la météo va changer et nous allons arriver à cela. C'est pour ça que ce pilote est comparé par les anciens aux médecins. Il pose des diagnostics, ce n'est pas l'objet d'une science écrite, mais il sait tout cela. Et avec ce savoir, comme le médecin, il sauve des vies en amenant les personnes et les biens à bon port.
On voit bien l'analogie. Et alors, est-ce qu'il faut s'imaginer que l'essentiel de ces navires fait du cabotage, ne s'éloigne pas en haute mer pour garder à portée de main, ou plutôt à portée d'œil, tous ces signes que vous nous, dont vous nous parlez?
Eh bien, c'est l'un et l'autre. Nous avons des navires qui sont plus spécifiquement des navires de cabotage. Une galère très effilée et relativement instable latéralement. Elle a une fragilité structurelle plus importante sur une mer formée. Mais la mer formée peut arriver à la terre aussi. Ces bateaux très manœuvrants peuvent gagner des abris de façon plus facile que ceux du large. Mais l'endroit le plus sûr en mer, même par très gros temps, c'est toujours la haute mer. Et le bateau qui navigue jour et nuit en haute mer, le bateau rond, y est toujours en sécurité. Nous avons donc deux modèles qui peuvent être des modèles d'aller et de retour. Un aller direct en utilisant des vents favorables et un retour qui contourne l'obstacle. Une utilisation intelligente de la carte des vents et prendre idéalement un vent favorable au prix d'itinéraires détournés et des itinéraires côtiers. Cela dépend des programmes de navigation et des bateaux qui leur sont adaptés. Vous aurez compris que la galère est plus adaptée à des programmes littoraux. Ça ne les empêche pas de traverser entre l'Afrique et la Sardaigne ou l'Afrique et la Sicile.
Giocando la spinetta agli altri giochi. Mi gode le fugasse de quelle de Malghera, go camminau per terra fino a Fusina. Dal trasto alla sentina combatte l'inda sciopo, andevo de galopo alla sueca. Go cammina la secca tutta la pescaria, goda la popa in drio ai do castelli.
Quid des cartes dans ce monde-là?
Alors, les cartes. Bonne question, je vous remercie de l'avoir posée. Nous savons qu'il existe des cartes de façon fort ancienne. On peut les faire remonter au moins jusqu'au 5e siècle avant Jésus-Christ. Ces cartes auraient-elles permis de naviguer? Très probablement pas. Nous n'avons jamais mention de cartes dans les outils de la navigation. Cela ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu, à un moment donné, des représentations graphiques qui associent éventuellement l'image d'une côte et un schéma de succession de deux choses. Nous ne pouvons simplement pas le garantir. On ne peut pas l'exclure non plus. Deux autres types de documents qui nous posent problème. On a un certain nombre de documents intitulés par les anciens périples, généralement, mais dont certains portaient le titre de port, limanès, et qui étaient des descriptions de lieux d'accostage, de distance, et des descriptions détaillées des ressources et des dangers. L'ancêtre des portulans. Parfois, on y trouve également une évaluation des directions approximatives. On tente à penser aujourd'hui, j'assume en tout cas cette pensée, que les pilotes n'avaient pas réellement besoin de ça. En revanche, les usagers avaient besoin de ces types de documents pour opposer à un pilote, en cas d'accident, les informations sur la sécurité ou l'insécurité du lieu et plaider devant un tribunal la faute inexcusable. On trouve également mention de textes qui ont fait couler beaucoup d'encre ces dernières années, que les anciens appellent les livres de pilotes. Et certains en ont fait un instrument de la formation du pilote. Rappelons tout de même que cette locution n'apparaît que dans des cas où il faut dire « ça n'existe pas ». Quand on dit « c'est un pilote qui a appris dans les livres », ça n'existe pas.
Les humanités dans le texte, un podcast de l'École normale supérieure et de l'Université Paris Sciences et Lettres. Pascal Arnaud, vous restituez à merveille cette vie de l'espace maritime méditerranéen pendant l'Antiquité. Un poncif voudrait qu'une fois le Moyen-Âge venu, cette vitalité s'amenuise, cet espace se referme. Cela est-il vrai ?
Non, je dirais que de façon générale, ce sont les voies d'eau dans leur ensemble qui ont été surutilisées pour le transport maritime. Le droit romain a transformé les fleuves en axes de transport prioritaire. La commodité du transport l'emporte sur toute autre considération, tout simplement parce que les volumes transportés par voie d'eau sont sans comparaison avec ce que l'on peut transporter à dos d'âne, voire à dos de dromadaire, et parce que les coûts de mise en œuvre sont de près de 10 fois inférieurs à la voie terrestre. Quand on compare le coût du transport sur des ânes, moins cher que le transport par char et le transport par voie maritime dans l'Antiquité, le rapport est d'à peu près 1 à 40. On comprend mieux que même s'il y a du risque, la mer puisse attirer la convoitise. C'est un lieu commun de la littérature antique, c'est dangereux comme tout, on y meurt, la mer veut vous tuer tous, mais vous y allez par appât du gain.
Et nous aussi, nous y avons été aujourd'hui, avec vous pour capitaine Pascal Arnaud, pardon, pour pilote. Et je ne sais pas quel appât nous suivions, mais je suis sûr qu'après cette traversée, nous avons gagné quelque chose. La fresque sonore de cet épisode était constituée dans l'ordre chronologique du nocturne 21 opus posthume de Chopin, qui accompagnait la lecture de l'inscription funéraire d'Epiphania. Vous aurez ensuite reconnu un extrait de la bande originale de 1492 de Ridley Scott, le fameux Conquest of Paradise composé par Vangelis. Enfin, dans l'intermède musical de ce podcast, vous avez pu entendre un chant marin vénitien du XVIIe siècle, ou plutôt Un canto lagunare del Seicento, intitulé Peregrinazioni lagunari, interprété par le coro Marmolada di Venezia et dirigé par Lucio Finco. Ce podcast a été réalisé par Émile Gaillozo, responsabilité scientifique en Cadane. Et pour nous quitter, à défaut de naviguer, arpentons les dédales de Carole Beffard.